Le révérend Espérance Makadi est le pasteur principal de l'église de Mangembo à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Conférencier et motivateur, cet enseignant de la parole de Dieu parcourt le monde et travaille d'arrache-pied à l'émergence d'une église glorieuse capable de servir au dessein de Dieu dans sa génération. Toucher les cœurs, renouveler les intelligences, transformer des vies, façonner des vases d'honneur, des outres neuves, pour qu'ils deviennent des sources de bénédiction entre les mains de Dieu pour des multitudes, voilà son appel. Suivez attentivement ce message afin de recevoir votre bénédiction et faire partie d'un peuple qui soit une réponse, une solution et un bénéfice pour sa société. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.
On y va, ça c'est ma Bible. Je n'entends pas, c'est pas comme ça qu'on parle. Lorsque tu crois dans ton cœur, tu le confesses, il faut que les diables l'entendent, que les démons l'entendent. Tu le fais avec une assurance telle que même Dieu s'est dit que tu crois à ce que tu dis. Et c'est le principe de création. On y va, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter aujourd'hui encore, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une semence incorruptible de vie. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Je produirai des témoignages au centuple. Je le crois. Ainsi je l'ai déclaré. Au nom de Jésus-Christ, qui me donne le plus grand amen, je lui donne la plus grande bénédiction. Écoutez ce texte. Il est intéressant. 2 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 16. Et je vais m'arrêter au dernier verset, c'est le 21e. 2 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 16. Suivez la lecture. Un texte très intéressant. C'est Pierre qui dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part.
Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, His word was ever known. Above all breath and traces of the earth, there's no way to measure your what you would. Crucify, lay behind the stone. You live to die, rejected by like a rose, stripe along the ground. You took Above all kings, above all nature, and all created things.
Oh yes.
Above all wisdom, and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, His waters and unknown. Above all weight and treasures of the earth. Au-dessus de tout, puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou le sombre du soir.
Et quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand.
Salisa, ilo la pembo kili, yo salig nyoso, onapo ligo be.
C'est l'offrande qui provient du plus profond de notre être.
Alléluia.
C'est notre amour que nous avons exprimé. C'est notre loyauté. C'est notre reconnaissance. Nous avons mélangé cela pour faire ces bouquets. Pour te l'offrir, ô Dieu de ciel. Merci pour tout ce que tu es pour nous, tout ce que tu as fait. Et merci pour le privilège que tu nous donnes ce matin d'être là. Merci pour le mouvement, l'être et la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la bénédiction. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Seigneur, merci. Merci de tout cœur. Merci un million de fois. Accepte nos acclamations et nos cris de joie comme un mélange de notre reconnaissance, de notre amour, de notre loyauté, de notre affection, de notre tendresse pour tout ce que tu es. Tout ce que tu fais pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons reprendre nos places. Merci les amis, merci beaucoup. Fils de Corée, merci. Dans les textes que nous avons lus, l'apôtre Pierre étant dans le cercle privé, le plus restreint d'ailleurs, parce qu'il n'était pas simplement parmi les 12, il était aussi parmi les 3. Et là, il dit que tout ce que nous vous avons annoncé, ce n'est pas partant de fables habilement conçues. Mais nous parlons comme des gens, comme des témoins de premier ordre, de premier plan. Des gens qui ont vu, des gens qui ont entendu. Et d'ailleurs, Jean le dit sous d'autres expressions, Jean dit, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, la parole de vie qui était auprès du Père. Donc, il se présente là comme des témoins de premier plan. Et Pierre parle de cette expérience glorieuse qu'ils ont eue à la montagne de transfiguration. Lorsque Jésus parlait de la gloire à venir et il annonce, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas sans avoir vu cette gloire. Et il accorde à Pierre, Jean et Jacques le privilège de palper ces choses. Il les ramène sur une sainte montagne, sur une montagne, et là, en train de prier, il transfigure. L'éclat de la gloire est tellement intense que Moïse et Élie apparaissent et Pierre décide donc de bâtir des tentes et de rester là rien qu'à contempler. Une voix se fit entendue du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute. C'est de cette expérience-là que l'apôtre Pierre parle. C'est de cette expérience-là qu'il parle. En disant tout ce que nous vous avons annoncé, ce n'est pas des histoires taillées, ce n'est pas des histoires cousues, ce n'est pas des histoires montées. Mais c'est des choses que nous avons vues, des choses que nous avons expérimentées. Mais il dit quelque chose de plus important. Il dit, nous tenons pour d'autant plus certaines. Là, il établit la comparaison entre l'expérience qu'ils ont faite et des choses qui étaient écrites d'avance. Il dit, nous tenons d'autant plus certaines à la parole prophétique, à laquelle il faut veiller comme une lampe au milieu de l'obscurité jusqu'à ce que le jour paraisse. Et il précise qu'aucune prophétie de l'Écriture n'a été donnée comme ça. Mais les gens étaient poussés par le Saint-Esprit avant de prophétiser. Donc il parle, la parole prophétique dont il parle, c'est les Écritures, c'est ce que les prophètes ont dit et qui a été écrit dans des livres saints. En fait, je vais me résumer. L'apôtre Pierre dit, des choses que nous vous annonçons, nous sommes des témoins de premier plan. Nous avons expérimenté, nous avons vu de nos yeux. Nos mains ont touché, nous avons participé. Ce n'est pas des choses qu'on nous a rapportées. Mais il dit que nous tenons d'autant plus certaines. L'expérience que nous avons faite, nous ne plaçons pas au-dessus de ce qui a été écrit. Ce qui a été écrit par le prophète. Ce qui est dans le livre, nous tenons d'autant plus certaines. C'est-à-dire, sous le plan d'importance, l'expérience que nous avons passée va en deçà de ce qui est écrit dans les Écritures. Et n'oubliez pas, lorsque Pierre écrit ces choses, il ne savait pas que sa lettre serait retenue dans le canon de la Bible. Au moment où il écrit, sa lettre ne fait pas partie des Écritures. C'est juste une lettre qu'il écrit aux chrétiens. Mais il leur dit, voilà l'expérience que nous avons faite. Nous sommes des témoins de premier plan. Des choses que nous vous disons sont tellement vraies parce que nous les avons vécues. Mais il veut dire aussi que notre foi ne repose pas simplement sur des expériences que nous avons faites. Mais nous tenons d'autant plus certaines à la parole prophétique, aux écrits des prophètes. Je vais dire une chose importante ce matin. C'est que les expériences de la vie chrétienne ne remplacent pas les Écritures. Oh mon Dieu, je parle du rouleau du livre qui est écrit. Les expériences aussi bien glorieuses comme celle-là que Pierre a vécu. Je parle des expériences positives et même négatives. Toutes ces choses ne peuvent en rien remplacer la véracité, l'authenticité des Écritures. Écoutez-moi frère, le problème que nous avons, c'est que le ministère des églises et des visions sont bâtis sur des fondements, des expériences personnelles. Une vie ne peut pas être bâtie sur une expérience personnelle. Glorieuse soit-elle, même si elle vient de Dieu cette expérience. Le fondement de la foi, le fondement de la marche chrétienne doit être les Écritures, parce que les Écritures ont été éprouvées. C'est comme ça qu'il dit, c'est pas par une volonté d'homme que des paroles
donné. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'autorité suprême de notre foi et de notre marche, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est le livre inspiré, infaillible, inhérent. Et nous ne pouvons pas. Vous voyez, lorsque quelqu'un a eu des déboires avec sa belle-mère ou avec sa propre mère, et s'est rendu compte que sa mère, qu'on a hébergée pendant des années, était une sorcière. C'est ce qui a détruit son foyer. Lorsqu'elle se lève pour témoigner, nous bénissons Dieu pour son témoignage. Ça doit édifier beaucoup d'autres personnes et ouvrir les yeux. Mais cela ne veut pas dire que toutes les mamans chrétiennes doivent commencer basant de cette expérience qu'elle a faite à traiter d'office leur belle-mère de sorcier et les regarder avec suspicion. La foi chrétienne se repose sous les Écritures. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dans mon répertoire des expériences glorieuses. Certaines, j'en ai partagé avec l'église, d'autres avec mon épouse. J'ai même des expériences que j'ai partagées avec personne, que j'ai fait avec Dieu. Mais ces expériences ne peuvent pas avoir la primauté, ne peuvent pas avoir la prééminence sous les Écritures, sous la parole de Dieu. Ça, c'est important. C'est Pierre qui l'a dit. Il dit, nous parlons basant des choses que nous avons vues. Nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous avons de nos oreilles entendu la voix. Nous avons vu cette gloire. Mais il ajoute, nous tenons d'autant plus certaines à la parole prophétique. C'est un piège énorme pour l'église que de pouvoir fonder les expériences négatives et positives. Les expériences glorieuses doivent nous inspirer. Mais ne doit pas constituer le fondement de notre foi, ni de notre marche chrétienne. Cela veut dire quoi? Papa Ghislain, je suis en train de dire ceci. Il arrive qu'un pasteur a des déboires avec ses collaborateurs, et cela tourne au vinaigre, et il subit des coups, une équipe ou une autre. Mais après cette expérience, cet pasteur, lorsqu'il partage son expérience ne doit pas devenir le fondement sous lequel tous les pasteurs bâtiront leurs relations avec leurs collaborateurs. Parce que la Bible, c'est la norme, la Bible, c'est le standard. La Bible, c'est les normes, c'est les standards. Et puis, ton ami va raconter, j'étais une femme soumise à mon mari. Et voilà, à cause de ma soumission, il m'a pris pour une naïve, voilà ce qu'il m'a fait. Et toutes les femmes chrétiennes vont se dire, partant de cette expérience, il ne faut plus jamais être soumise à son mari. Non! Ça, c'est important. Il y a un danger qui guette l'église. Toutes ces choses sont bonnes. Ça doit nous inspirer, mais mon problème, ces choses ne doivent pas constituer le fondement de nos choix, le fondement de notre caractère, de notre foi ou de notre marche chrétienne. Parce que plusieurs d'entre nous sont de poids à de telles choses. Et je vais vous dire à la fin pourquoi j'ai dit toutes ces choses. Oh mon Dieu, je parle des expériences de la vie chrétienne. Je parle des expériences aussi bien glorieuses, positives que négatives. Regardez. Plusieurs personnes, parce qu'il a été escroqué par un frère ou par quelqu'un à qui il avait confiance. Et du moment où il a été escroqué, cette expérience les rend amers. Cette expérience change son attitude. Et il commence à voir tout le monde avec suspicion. Il ne sait plus faire confiance aux gens. L'image de ce qu'il a vécu se répercute sur tout le monde. Et ça, c'est dangereux. Lorsque mon fils a été kidnappé et qu'on l'a retrouvé, des psychiatres qui s'occupaient de lui nous ont dit que le plus grand travail à faire avec cet enfant, c'est de pouvoir l'aider à rebâtir le sens de la confiance. Parce qu'avec tout ce qui lui est arrivé, il s'est donné naïvement entre les bras d'un inconnu qui s'est fait passer pour son tonton, parce que aussi c'était la faute des parents. Nous lui avons présenté tellement de tontons, tout le monde était tonton, et lui dans sa tête, dans sa manière, comment lui, sa tête n'est pas comme la mienne, dans sa tête à lui, quand tu lui dis tonton, cela veut dire tonton, cela veut dire c'est son oncle, cela veut dire. Et maintenant Le psychiatre dit, le plus grand danger, le grand travail à faire, même dans vos prières, pasteur, que ce jeune homme rebaptise le sens de la confiance. Parce que la chose qui va le plus grandir en lui, c'est la réticence. Toutes les fois que quelqu'un s'approchera de lui, qu'il soit un inconnu ou quelqu'un de la famille, il sera réticent. Et c'est le travail que nous avons commencé à faire dans la prière. Et je bénis Dieu parce que je le vois. Lorsqu'il voit Ancien Matou, il saute sur lui. Lorsqu'il voit passer Nico, il saute sur lui. Et l'autre jour, il me disait d'ailleurs, Ancien Matou et passer Nico viennent tellement chez nous, je crois qu'il doit faire partie de notre famille. C'est-à-dire, je n'ai pas vu cette réticence que nous craignions. Au début, il y en avait. Toutes les fois que des gens arrivaient à la maison des inconnus, ils disparaissaient. Vous devez les chercher pour saluer les gens. Mais à l'aide de la prière, ces choses se sont faites. Dieu l'a relevé. Vous pouvez voir qu'il a confiance aux gens à nouveau. Et pourquoi le psychiatre a donné ce conseil? Parce qu'un enfant, un homme ne peut pas, dans ce monde d'ensemble, développer ce sens de manque de confiance, se renfermer en lui-même, ça va l'handicaper dans beaucoup plusieurs autres choses. Parce que les relations humaines s'avèrent un atout majeur pour tous ceux qui veulent réussir dans la vie. Et d'ailleurs, de nos jours, puisque les compétences, et puisque beaucoup d'autres talents et capacités, votre manière de communiquer, de parler avec les gens, détermine jusqu'où vous pouvez aller dans la vie. C'est pourquoi je parle des expériences ce matin. Pierre en a fait une expérience glorieuse. Mais il ajoute que nous tenons d'autant plus certaines. Cela veut dire entre l'expérience que nous avons vue de nous-mêmes et la parole de Dieu. S'il arrive qu'il y a une contradiction, nous rejetterons cette expérience au profit de la parole. Bien que nous étions là, nous avons entendu. Mais si une expérience contredit les Écritures, nous la mettons de côté parce que la parole de Dieu est immuable, elle est éternelle. Vous voyez, des frères et sœurs en Christ, des frères, je voulais dire, qui sont de très mauvais maris. Pourquoi? Parce que tout ce que son père a subi, tout ce qu'il a appris chez ses amis, quand tu es transparent avec la femme, quand tu lui montres tout, quand tu es gentil, quand tu n'es pas dur, il va marcher sur tes doigts et finalement sur ton nez. Et partant de ses expériences, il s'efforce d'aligner son comportement, son caractère à la maison, juste parce qu'il pense que s'il est trop dur, c'est une manière d'inspirer le respect. Et où est parti le texte qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Entre l'expérience mauvaise que tes parents ont fait, ton père ou ton ami, et la parole de Dieu va avoir la suprématie. Même si vous ne dites pas Amen, je suis là et je vais. Alléluia. Parce que nos statuts, nos règlements intérieurs des églises sont taillés en fonction des conflits. J'ai entendu beaucoup de gens dire à mon épouse, tu vois ce qui arrive à maman Félicia, c'est que toi aussi, le jour où ton mari n'est pas là, les gens vont se comporter de la même manière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, lorsque tu es en vie, sois prudente avec les gens, ne donne pas le meilleur de ce que tu as, ne te dépense pas pour ces gens parce qu'ils sont des ingrats, regarde ce qui arrive à la femme de la porte, c'est ce qui va t'arriver. Non! Une expérience ne doit pas conduire notre mode de vie. Nous devons être scripturaires. Lorsque nous faisons du bien aux gens, lorsque nous servons des gens, le but c'est pas la récompense. Pense des gens, le but c'est qu'il y a un Dieu au ciel qui récompense. Tape la main du voisin, dis-lui, le pasteur te parle, le pasteur me parle. Par ma petite expérience de pasteur, je connais des frères qui ne craignent pas Dieu, qui vivent dans le désordre, mais que Dieu bénit matériellement et financièrement. Oui, c'est pas le diable. Quand je dis mon expérience pastorale, c'est que je connais ce qui se passe. Je connais des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils vivent en désordre. Dans la débauche, dans toutes sortes de choses horribles. Mais je sais aussi, j'ai des preuves, que c'est Dieu qui les bénit matériellement. Je ne comprends rien. Maître Banza, je ne comprends rien de ces choses. On peut m'expliquer, c'est la souveraineté de Dieu, parce qu'à côté, il y a des frères qui craignent Dieu, qui respectent Dieu, qui prient, qui gênent, mais entre-temps, qui passent par la vallée de l'ombre. Et heureusement, ce n'est qu'une vallée de l'ombre et de la mort, ce n'est pas la vallée de la mort. Et heureusement, ce n'est que, dites au voisin, ce n'est que l'ombre. Et nous ne pouvons pas nous servir de l'expérience d'un frère qui ne craint pas Dieu, qui prospère, pour dire, moi aussi je peux faire tout ce qu'il fait et je vais prospérer. Ça ne marche pas de cette manière-là. Je connais des frères qui prospèrent financièrement, mais qui ne donnent pas leur dîme. Je n'ai aucune... Ça ne devait pas être ainsi. Lorsque quelqu'un ne donne pas sa dîme, le dévoreur doit dévorer ce qu'il fait. Mais entre-temps, je vois cette contradiction. Je connais personnellement des gens qui prospèrent et qui avancent, peut-être apparemment, Peut-être aussi s'il donnait des dîmes, il serait à un niveau plus supérieur. Mais entre-temps, il prospère. Ce n'est pas pour autant que cette expérience doit devenir la règle de vie en disant je peux ou ne pas donner ma dîme, les choses marcheront. Ça ne marche pas de cette manière-là. L'inverse vrai. Que dire de ses soeurs, de ses frères qui craignent Dieu? J'en ai plein ici. Je me fâchais contre quelqu'un qui disait, les filles dans votre église ne craignent pas Dieu. Je me suis fâché parce que je connais des filles et des dames ici qui ont renoncé à des situations confortables, qui vivaient bon chic, bon jar, mais elles ont renoncé à tout. Ils vivent dans la médiocrité jusqu'à manquer de lait de beauté parce qu'ils craignent Dieu. Entre temps, vous priez, vous gênez, vous le oignez, vous faites tout ce qu'un pasteur peut faire, vous donner la Sainte Seine, mais les choses semblent ne pas marcher. Et cela ne doit pas devenir une règle, cela ne doit pas inspirer quelqu'un à dire, si je crains Dieu, voilà ce qui sera mon sort. Parce qu'Azaf a fait cette expérience. Azaf dit, je vis le méchant prospérer, et je vis le juste tout comme si rien ne s'est passé. Le méchant avait de la bon point, tout lui réussissait, tout marchait. Et Azaf dit, j'ai failli trébucher. Pourquoi il a failli trébucher? Parce qu'il voulait que ses expériences passent au-dessus des Écritures. Alors que les Écritures disent que les justes croissent comme un palmier, mais les méchants croissent comme de l'herbe. L'herbe ne prend pas du temps, ça pousse vite. Mais à peine que la saison sèche n'a même pas encore commencé, les herbes commencent à sécher déjà. Mais un palmier prend son temps. Et pendant ce temps, les racines vont dans les profondeurs, dans les nappes souterraines. Parce qu'un palmier sait que dans des saisons de sécheresse, il n'aura pas de la pluie, mais il peut puiser dans les racines. Et la Bible dit qu'un juste croise comme un palmier. Il reste verdoyant dans sa vieillesse. Il porte des fruits jusque dans sa vieillesse. Azaf dit, j'ai failli trébucher. Pourquoi? Parce qu'il a mis de côté des écritures. Il voulait juste se baser des expériences. Il dit, heureusement, jusqu'à ce que je sois entré dans la présence de Dieu. Et là, il a reçu la révélation. Là, c'est là, dans la présence de Dieu, qu'il a reçu la révélation que la prospérité et la croissance du méchant n'est que pour un temps, c'est comme de l'herbe, mais le juste, lui, prospère comme un palmier. Les écritures ne mentent jamais. Frères et sœurs, la parole immuable de Dieu reste le fondement stable sur lequel vous pouvez bâtir votre foyer, vos affaires, votre futur. Elle ne sera jamais ébranlée, quoi qu'il arrive, parce que des choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas ont été créées au moyen de la parole. Je reste fidèle à la parole, même si les résultats semblent ne pas venir. Je reste fidèle à la parole. Elle ne me trahira pas. Elle finira par s'accomplir. Je parle de la parole du Dieu Tout-Puissant. Oh mon Dieu. Si elle dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et qu'entre-temps, je manque de tout. J'ai un choix à faire. J'ai un choix à faire. Un choix à faire entre ce que l'expérience me montre et ce que la parole me montre. L'ancien Matou nous montrait ici, au premier culte, une sœur qui, au mois de janvier, ne pouvait pas s'acheter un pain pour manger. Juste pas pour nourrir quelqu'un d'autre, juste pour elle-même. Elle était incapable de s'acheter un pain pour manger. Mais au mois de juin, cette même sœur est venue voir l'ancien pour dire, viens voir quelque chose dehors. L'ancien dit, qu'est-ce que je vais voir? Parce que l'ancien hésitait, il avait peur que la sœur va lui demander de l'argent encore pour un gobelet, comment on appelle ça, un sacomi de riz. Mais lorsqu'il sort dehors, il voit une belle Jeep et la sœur dit, ça m'appartient. Les circonstances sont des réalités qui passent. C'est comme l'ombre. Vous voyez mon ombre devant moi. Si vous me donnez 2 heures là, il ne sera plus là. D'ailleurs, 1 heure après, à un moment donné, il va disparaître. Les réalités sont comme l'ombre. Mais les écritures, les livres sacrés, oh mon Dieu, il a été éprouvé ces livres. La parole de Dieu est éprouvée. Cela veut dire la parole de Dieu est entrée dans les laboratoires. On a examiné sa véracité. Lorsque Dieu dit parmi mon peuple, il n'y aura ni femme stérile ni celle qui avorte. Avant que Dieu déclare cette parole par Moïse dans Exode 23, Dieu a pris cette parole à amener dans les laboratoires. Dieu a vérifié. Dieu a fait l'expérience. Et Dieu s'est rendu compte que cette parole, je peux la libérer. Je peux la libérer. Elle est digne de confiance. Nous pouvons, frères et sœurs, bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Si les nièces du mari de ton ami ou ses neveux étaient sorciers. Et quand les hébergeants, sa famille est entrée dans le trouble, cela ne sera pas ton expérience. Tu ne dois pas te baser de ça pour chasser les nièces ou les neveux de... D'ailleurs, si des sorciers viennent habiter chez toi, ils sont en difficulté pour opérer. Et de dire que Dieu veut les sauver. Parce que les rangs que toi tu as, un sorcier ne peut pas s'hasarder chez toi. Je prêche à la bonne église, j'espère, ce matin. J'espère que je parle aux bonnes personnes. Nous tenons d'autant plus certaines à la parole prophétique. Il arrive et il arrivera toujours que les expériences contredisent la parole de Dieu. Mais la parole reste le standard humiliable. Oh mon Dieu, c'est au moyen de cette parole que Dieu a créé tout ce qui est visible. Et ce qui est invisible. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole est devenue chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. La même parole aujourd'hui a la capacité de se matérialiser dans ta vie. En forme de guérison. En forme de délivrance. En forme de bénédiction. Tape la main du voisin et dis, je bâtis ma foi sur la parole du Dieu Tout-Puissant. Tape la main de l'autre voisin, dis-lui, j'ai bâti ma vie sur la parole du Dieu Tout-Puissant. Tape la main de l'autre voisin et dis-lui, j'ai bâti ma vie sur la parole du Dieu Tout-Puissant. Oh mon Dieu, je parle de la parole de Dieu ce matin. Et les chrétiens doivent apprendre à bâtir tout ce que nous bâtissons. Parce que c'est un livre qui regorge la sagesse. La sagesse divine et supérieure. Tous les domaines de la vie peuvent être régis par la parole de Dieu. Votre vie professionnelle. Quand vous montrez pas quelqu'un en disant, voilà, il avait un poste important, il n'avait jamais volé, voilà comment il a fini misérable. Et tout le monde sont dans une course d'enrichissement rapide et facile. Parce que simplement, le modèle dans la société devient des gens qui volent, des gens qui trichent. Et à cause de cela, même des enfants de Dieu inventent leur propre verset. On ne sait jamais. Lorsqu'il est temps, il faut profiter. Profiter de quoi? Parce que ce que vous croyez être une bénédiction sera suivi de chagrin. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel, c'est celle-là qui enrichit. Et quand Dieu veut te bénir, le critère économique ne compte pas. Quand Dieu veut te bénir, le paramètre social ne compte pas. Et lorsque Dieu prend plaisir à faire des choses en des temps compliqués, afin qu'on reconnaisse que ça c'est la main de Dieu, parce que ton salaire ne peut pas acheter une maison, parce que tu ne peux pas arriver, Dieu fera que tu aies une maison, Dieu fera que tu aies des ouvertures, afin que les gens posent la question, comment ces choses t'arrivent, et tu leur diras, ce n'est ni par les folles, ce n'est ni par les escroqueries, c'est par l'Esprit de l'Éternel. Reçois cette parole et qu'elle travaille pour toi. Sans le vouloir, nous commençons tous à développer une subtilité. Nous devenons tous subtils. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la ruse. Vous voyez des jeunes sœurs qui s'exhortent entre eux. Je suis venu à l'église à l'âge de 18 ans. L'âge avance. Tu peux trouver un homme, faire un enfant. Dieu va pardonner. Et après quoi? Daddy, tu connais son cœur. Il va t'accepter. Et puis après. Oui, Dieu va pardonner. Mais vous savez, Sarah a fabriqué Ismaël comme solution. Et vous savez qu'Ismaël n'a jamais été une solution. Jusqu'à nos jours, Ismaël est un problème pour le fils d'Isaac. Parce que quand Dieu n'a pas béni. Ne te fabrique pas des histoires pour te consoler. Et tu risques de croire que Dieu a béni. Si Dieu n'a pas béni, ce n'est pas une bénédiction. Tu peux lui donner la coloration que tu veux. Mais un jour, ça se retournera contre toi. Mais si tu es patient, si tu attends le temps de Dieu, au temps favorable. Je voulais dire qu'on n'aide pas Dieu. Tape la main du voisin, dis-lui, on n'aide pas Dieu. Dites-lui, on n'aide pas Dieu. Elle qui voulait Ismaël a dû plus tard chasser la servante et son fils. Mais pourquoi on doit les chasser? Parce que c'est toi qui l'as voulu. Tu crois que tu es plus sage que Dieu? Mais non, tu n'es pas plus sage que Dieu. Dieu a des solutions pour ta vie. Dieu a un destin pour toi. tu ne dois pas obscurcir les desseins de Dieu. Parce que tu as l'impression, toi tu ne vois que ce qui se passe là. Personne d'entre nous ne voit ce qui se passe derrière ces rideaux et derrière ces murs. Pour ne pas dire que personne ne connaît ce qui arrive demain matin. Toi tu ne sais pas la surprise que Dieu te réserve demain matin. Tu es en train de suivre l'expérience de quelqu'un qui n'a ni fondement. Il a bâti sa vie sur du sable, il n'y a ni racine ni fondement. Lorsque le vent viendra, la tempête et tout ce qu'il a bâti s'écoulera entre peu de temps. La parole de Dieu est immuable. David dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier à son père. Cela n'arrive pas et ça n'arrivera pas avec toi. Ça ne commencera pas avec toi. Dieu n'est pas un stagiaire avec ta vie. Dieu n'est pas en train de faire des stages avec ta vie. Dieu connaît, il maîtrise le rouage. Avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, il te connaissait. Tous les jours qui t'étaient destinés étaient tous inscrits sur ton livre. Rien n'a échappé au contrôle de Dieu. Ton père peut avoir perdu tout ce qu'il a perdu. Ta mère peut-être est morte. Le prophète qui t'a prophétisé est mort ou s'est égaré. Mais la parole de Dieu reste immuable. Elle ne retournera pas à Dieu sans avoir la compte. Il y a une parole sur ta vie. Elle s'accomplira, cette parole. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Et j'aimerais qu'on lise. Oh mon Dieu, j'ai déjà débordé de 5 minutes. Bon, je ne vais plus lire. Je vais simplement expliquer cela. Mais c'est intéressant. C'est Luc chapitre 24. Suivez ceci. Dans Luc 24, des disciples du Seigneur Jésus-Christ sont sur la route d'Emmaüs. Et là, en route, ils sont en train de discuter sur les événements qui leur sont arrivés, la mort du Seigneur et toutes ces choses. Et quelqu'un vient se joindre à eux. Et pendant leur conversation, il pose la question, de quoi parlez-vous? Et l'un d'entre eux dit, mais toi tu es le seul habitant de Jérusalem qui ne sait pas ce qui est arrivé à propos de ce Jésus qu'on a crucifié. Nous espérions, cela veut dire nous n'espérons plus, nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël, c'est-à-dire c'est lui le Messie, le rouage physique et charnel qui affranchirait Israël de la servitude des Romains. Mais avec tout ce qui est arrivé, voilà déjà ça fait 3 jours. Mais d'ailleurs, il y a quelques femmes au milieu de nous qui ont raconté, qui sont allées une longue pavie. Écoutez maintenant, ces visiteurs inconnus, la Bible dit partant de Moïse, passant par toutes les écritures, ils commencent à leur parler ce que les prophètes ont dit concernant la résurrection. Docteur José, voilà ça c'est compliqué. Moi à la place de Jésus, c'est simple. Je leur dis, regardez, touchez ici, c'est moi Jésus. Touchez ici, c'est fini. Quelle est l'expérience la plus glorieuse de toute l'histoire de l'humanité? C'est la résurrection. Jésus a été ressuscité. C'était plus facile de leur dire, c'est moi, voyez. Mais Jésus ne veut pas que leur foi soit fondée simplement sur l'expérience qu'ils verront. La Bible dit, Jésus les ramène dans les Écritures. Commençant par Moïse, passant par tous les prophètes. C'était une longue distance. Je ne peux pas traduire ça en kilomètres, je n'ai pas eu le temps de traduire ça en kilomètres. Mais ils ont fait de longues distances. Jésus est en train de leur expliquer qu'il était dit. Tel prophète a dit, Esaïe a dit, David dans le psaume a dit, son corps ne verra pas la corruption. Pourquoi Jésus a pris tout ce temps? Un diacre Laurent, ce serait plus facile de leur dire, comme il a dit à Thomas, c'est moi, voyez les traces. Ils allaient se prosterner et croire. Mais Jésus ne voulait pas qu'ils prennent l'habitude de bâtir leur foi sur des expériences. Il les retourne dans les Écritures, partant de Moïse, il leur explique Écriture après Écriture, afin de leur apprendre à poser leur foi sur ce qui est écrit. Vous ne devez pas apprendre à quoi parce que vous avez vu ou expérimenté, mais parce que c'était déjà écrit. Lui-même, le maître, les retourne dans les Écritures. C'est lui qui a fait l'expérience. C'est lui qui est ressuscité. Il suffit de dire, c'est moi. Tout s'arrête là. Il se prosterne. Mais Jésus les retourne dans les Écritures. Tout ce qui est partant de Moïse. Oh mon Dieu. L'Église s'est éloignée des Écritures et du livre. Il arrive des journées entières. Les enfants de Dieu n'ouvrent pas les livres. Ils sont en train de prier. Mais c'est quoi ta prière? La prière, c'est retourner à Dieu sa parole. Et ces livres contiennent des principes immuables de vie. Les expériences viennent comme des parenthèses dans la vie. Mais la vie elle-même est bâtie non sur des expériences. Cela veut dire, si un frère ou une sœur est mort de poison, vous ne pouvez pas me faire croire que je vais mourir de poison. Parce qu'il est écrit, ils boiront des breuvages mortels. Cela ne leur fera aucun mal. Tu peux me donner la liste des chrétiens qui sont... D'ailleurs, tu ne connais pas. Quand tu dis quelqu'un est chrétien, tu ne connais pas. Tu peux dire, je suis ton pasteur, mais en réalité, tu ne connais pas. Mais comment tu vas bâtir ta vie sur l'expérience de quelqu'un? Tu ne connais même pas en réalité. On se dit, là, frères et sœurs, vous savez qu'au milieu de nous, il y a des escrocs qui sont venus justement. Ils attendent lorsque l'onction va créer un des autres, va appeler les malades pour qu'ils lui volent un téléphone. Oui, il y a des gens qui sont venus pour ça. Et puis tu vas bâtir ta vie sur l'expérience de quelqu'un qui va te dire, le temps passe, regarde, moi j'ai fait ceci, ça a marché. Mais tu ne sais pas ce qu'il est. La Bible est vraie, elle reste vraie. La Bible dit, en exerçant l'hospitalité, plusieurs ont accueilli et hébergé les anges. La Bible ne dit pas, en exerçant l'hospitalité, plusieurs ont logé des sorciers et des démons. Si c'est eux qui viennent, ils n'auront aucun pouvoir sur toi, parce que ce que tu as fait, tu l'as fait. Oh mon Dieu, nous sommes en train de remettre en cause les Écritures. Ne donnez pas l'argent aux gens qui demandent dans la rue. Ils vont prendre de votre argent. Ils vont aller le lier. N'aidez pas les pauvres, les vieilles femmes pauvres. Mais qu'est-ce que dit les Écritures? Si un sorcier veut se jouer de ta vie ou de ta bonne foi, ça c'est une occasion pour lui de rencontrer le Dieu que tu sers. Jésus les a retournés dans les Écritures, partant de Moïse et passant par le prophète. Il leur a montré qu'il était prévu que le Christ ressusciterait. Ce qui est arrivé est la conséquence de ce qui était écrit. Et votre foi doit être fondée sur les Écritures. Quand tu as saisi une parole des Écritures, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je n'ai rien, je ne confesse pas que je manque de tout. Je continue à croire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Même si tout est troublé autour de moi, il me conduit dans le chemin de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houlette me rassurent. Cela veut dire, là où tout le monde a fait naufrage, je ne ferai pas naufrage. Là où tout le monde a laissé sa peau, je ne laisserai pas ma peau. Mon sort sera différent, parce que mon sort est lié à la parole immuable de Dieu. Aucun iota des Écritures ne sera aboli. Tout ce qui est écrit s'accomplira à mon propos. Et là, dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Même si 5000 sont tombés avant moi, si ces postes-là, ceux qui l'ont occupé avant, sont morts d'empoisonnement ou de sorcellerie, moi, je ne suis pas haï. Je vais traverser la vallée de l'ombre et de la mort. J'ai un berger, son bâton et sa houlette me rassurent. Heureusement que cette vallée de l'ombre et de la mort n'est pas ma destinée finale, n'est pas ma résidence. Je ne fais que passer. Je finirai par la traverser. Et lorsque je traverserai, je trouverai une table dressée en face de mes ennemis. Je disais le mardi, en face des ennemis, l'appétit s'en va. Personne n'a d'appétit en face de ses ennemis. On ne peut pas manger en face des ennemis. On ne peut pas manger en face des ennemis. Il n'y a pas d'appétit. Mais lorsque la Bible dit, dresse une table en face de mes ennemis, ces ennemis ne sont pas libres. Ils sont déjà liés. Il les a liés. Ils sont des prisonniers de guerre parce qu'il les a vaincus. Ils sont là en face, mais ils sont liés. Ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Ils sont désarmés. C'est comme ça que je peux avoir l'appétit en face des ennemis. Il s'agit, toi, tu as peur. Sache qu'ils sont des ennemis liés. Ils n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Et là, il ointule ma tête. Cela veut dire, je fais partie de la famille royale. Je fais famille de la lignée. Je fais partie de la lignée des sacerdotes. Parce qu'il n'y a que des sacrificateurs et des rois qui avaient droit à l'onction. Il ointule ma tête parce que je suis de la lignée royale. Il ointule ma tête parce que je suis de la lignée sacerdotale. Parce que je suis ici du souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisedec. Et parce qu'il ointule ma tête, ma coupe déborde. Parce qu'il ointule ma tête, mon garage déborde. Parce qu'il ointule ma tête, mon compte bancaire déborde. Parce qu'il ointule ma tête, mon coffret de bijoux déborde. Frères et sœurs, les rêves de mon cœur et ma prière. Et ça, c'est pas pour longtemps, pour bientôt. Que des voitures deviennent pour nous comme des jouets. comme les enfants ont 7 ou 8 jouets de voiture en train de jouer. Quelqu'un entre dans ta pensée, il voit 8 jeeps comme des jouets. Que des maisons deviennent comme... Parce qu'en fait, je me rends compte que nous n'arrivons pas à saisir la valeur des choses spirituelles parce que nous nous battons encore avec des choses matérielles. Je vais aligner 10 belles voitures ici pour mes jeunes gens, attendez, pour mes jeunes gens qui se marient, qui demandent des voitures à leur oncle Rosie Christian, qui loue des voitures, qui demandent à quelqu'un de dire, eh bon, ensemble, je vais aligner 10 voitures là, qui fera que transporter des jeunes qui vont se marier. Il faut que des maisons deviennent comme des jouets en carton. Et c'est à ce moment-là que nous comprendrons la vraie valeur des choses spirituelles. Il ointuille ma tête et ma coupe déborde. Quelle relation entre l'huile sur ma tête et ma coupe? Parce que l'onction attire, l'onction attire, l'onction attire la bénédiction. Tu n'as pas besoin de tricage, tu n'as pas besoin de scroquerie, tu n'as pas besoin de voler. Il y a un Dieu au ciel qui rémunère. Oh, j'étais en train de dire, il y a un Dieu au ciel qui bénit. Et la Bible dit qu'il peut te bénir avec abondance, de telle sorte que possédant toujours en tout temps tout ce dont tu as besoin, tu aies encore en réserve beaucoup d'autres pour s'occuper de toute bonne œuvre. Oh mon Dieu. Oui. Le bonheur et la grâce. Est-ce que vous savez qu'ils sont des jumeaux? Je vous ai déjà dit? Non. Le bonheur et la grâce sont des jumeaux. Ils sont nés à une fille et un garçon. Partout où la grâce va, le bonheur suit. Ah, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Où la grâce va, le bonheur suivra. Parce que tu as la grâce excellente, le bonheur viendra. Laisse-moi prophétiser sur ta vie. Dieu va te couronner de faveurs. Tes ennemis te feront du bien et les regretteront après. Des gens se battront pour ta cause. Des gens que tu ne connais même pas. Parce que la grâce t'accompagnera. Et le psalmiste termine, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Tu habiteras dans la présence de Dieu. Aucun fléau ne s'approchera de toi. Parce que tu habiteras à l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi j'ai dit toutes ces choses? Mettez-vous, je termine. Et on est en train de partir. Pourquoi j'ai dit toutes ces choses? Parce que je prêche sous le message de l'ordre de Melchisedec. Je prêche, je parle ce jour sous l'amour, qui est la seule loi, le seul commandement de la nouvelle alliance. Et pas n'importe quel amour. L'amour comme lui nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et je découvre que ce qui détruit l'amour, c'est les expériences. À cause des expériences négatives que les uns et les autres ont faites, nous ne savons plus aimer. Nous ne savons plus donner. Nous ne savons plus nous donner. Et nos propres expériences et les expériences des autres. Vous voyez des gens vivre sous un seul toit, mais ils ne savent pas se faire confiance. La femme ne sait pas faire confiance à son mari. Le mari ne sait pas aimer sa femme à cause des expériences des autres. Ce qui est arrivé à l'autre là, il a tellement aimé sa femme, voilà comment il a fini. Ça risque de m'arriver. Et c'est pourquoi? Parce que nous avons élevé des expériences au-dessus du standard de la parole de Dieu. Et cela a refroidi l'amour dans nos cœurs. Oh mon Dieu, la parole de Dieu reste humiliable. C'est le standard de notre vie. Quel que soit ce qui vous est arrivé dans le passé, quel que soit ce qui est arrivé aux gens autour de vous, vous ne devez pas compromettre la parole de Dieu. La protection véritable n'est qu'en Dieu. La protection véritable n'est qu'en Dieu. Vous ne devez pas diviser votre famille par crainte de sorcellerie parce que l'autre famille a été envoûtée. Toi, tu fais partie des gens qu'on ne peut pas envoûter. La sorcellerie et la divination, ça c'est un jet d'enfant. Tu n'es pas à ce niveau-là. La sorcellerie, c'est un jet d'enfant. Tout cet envoûtement est un jet d'enfant. Toi, tu es élevé à un autre niveau. Et au niveau où tu y es, le commandement, c'est que vous devez vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous n'avez jamais vu ni senti de la mertie dans la vie du Seigneur ni dans ses paroles, parce que Judas l'a trahi et qu'il devient méchant avec Pierre et qu'il prend des précautions avec Thomas en disant on ne sait jamais. Tu ne dois pas laisser corrompre ton cœur parce que quelqu'un t'a fait du tort, il t'a fait du mal, ça fait pourrir ton cœur. Tu dois te vider de ces choses et bâtis ta vie sur la parole. Ce que la parole te demande de faire, tu dois le faire. Quel que soit ce que les gens t'ont rendu, quelles que soient les expériences, ta vie, tu la fondes sur la parole. Et je peux te rassurer, te garantir, la parole te donnera des résultats qu'elle promet de te donner. Elle est la parole immuable du Tout-Puissant. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus devient le garant de cette parole, le garant de toutes les promesses que Dieu a données. Si Jésus est le garant qui peut remettre toutes ces choses en cause, je continue à vivre une vie normale. Je ne veux pas être stressé. Je ne veux pas me comporter comme quelqu'un qui a été blessé. Je vais laisser l'amour couler dans mon cœur. Si quelqu'un en abuse, Dieu prendra soin. Si quelqu'un en a abusé, Dieu prendra soin. Mais je dois aimer les gens de ma famille. Je dois aimer les frères et sœurs en Christ. Je dois me comporter tel que la parole me demande de me comporter. Je ne dois pas me comporter. Votre attitude, votre façon de faire ne doit pas dicter ce que moi je dois faire. Ma façon de faire et de penser doit être fondée sur la parole du Dieu Tout-Puissant. En dépit de tout ce qui se fait autour de moi, parce que tout passera en définitive et la parole de Dieu restera immuable. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'a pas dit aimez-vous les uns les autres comme les expériences vous ont enseigné. Tu dois être profondément, madame, engagé dans ton foyer. Tu ne dois pas vivre dans ton foyer avec des réserves en disant les hommes, on ne sait jamais. Voilà ce qui est arrivé à tel. Et d'ailleurs, lui était tel. Mais voilà ce qu'on a fait à sa femme. Et ma copine est là. Ça te ne regarde pas. Tu ne bâtis pas ta vie sur ta copie. Tu n'es pas sa photocopie. Tu as un plan pour lequel Dieu t'a envoyé. Ton foyer ne fera pas naufrage. Ta vie ne fera pas naufrage. Parce que le fondement solide, c'est la parole immuable du Dieu Tout-Puissant. Merci d'être venu à ce culte. Nous nous voyons le mardi à 17h pour un autre grand service. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. En sortant de ces lieux, que la faveur vous accompagne. Que les portes vous soient offertes.
C'était là le message du révérend Espérance Mbakadi, pasteur principal de l'église de Mangembo à Kinshasa, en République démocratique du Congo.